Espace Horizon inaccessible ce matin. Première question, une question des auditeurs en fait, pour laquelle tu souhaites apporter une précision. Tu l'as sélectionnée, je suppose. Laquelle? Y a-t-il eu des loupés dans la mission?
Oui, si. Bonjour chers auditeurs. S'il n'y a pas eu de loupé dans la mission Apollo 11, on a vu le mois dernier les événements qui auraient pu très mal se terminer avec Apollo 13. Mais ce ne sont pas les seuls loupés du programme. En poursuivant mes recherches, j'ai trouvé trois autres cas. Lors d'Apollo 12, Conrad a laissé sur la Lune un sac contenant des pellicules photos prises au cours de sa mission. Et les deux astronautes ont laissé sur la Lune une des sections du tube de carottage qui contenait du rigolite, le sol lunaire, qui intéressait grandement les géologues. Et lors de l'installation des instruments scientifiques au cours d'Apollo 15, Scott a arraché en reculant le câble de l'expérience de mesure de la chaleur interne de la Lune. À sa décharge, il faut dire que sur la Lune, le casque des astronautes était tellement gros qu'ils ne voyaient pas leurs pieds. Donc, on ne pouvait pas leur reprocher d'avoir marché sur un câble. Et je rappelle qu'une expérience n'avait pas marché parce que, eh bien, dans la conception de l'instrument, une pièce était trop lourde de 0,1 g. Donc cette expérience mise sur la Lune par Apollo 17 n'a jamais marché.
Autre question, nous avons vu que les Américains ont coopéré avec les Européens pour la mission Cassini. Y a-t-il des programmes spécifiquement européens?
Oui, l'Europe a pu voler et a voulu voler de ses propres ailes, grâce en particulier à Arianespace. Voyons les deux programmes de cette organisation. Évidemment, Ariane. Ariane, qui est le fruit de la coopération européenne suite à l'échec des précédentes associations, Eldo et ESRO. C'est une fusée de 47 mètres de haut, de 200 tonnes, et son premier étage est testé avec succès en décembre 1977, le second étage en janvier 1978, tout ça à Vernon dans l'Eure. Le coût du développement d'Ariane, environ 4 milliards de francs de 1979, correspondait au 1/20 de celui de la navette spatiale. Facture initiale. Dans cette facture allait atteindre des sommets suite aux modifications lancées après le premier accident. L'approche des Européens était pragmatique. Pourquoi développer un engin embarquant un équipage pour aller mettre des satellites sur orbite avec les immenses contraintes de sécurité et de fiabilité que cela impose, alors qu'une fusée peut le faire à moindre coût et sans aucun risque pour des astronautes, même si la navette avait au départ d'autres possibilités. Le 24 décembre 1979, la fusée Ariane 1 décolle du centre spatial guyanais de Kourou et elle emporte un satellite d'une tonne qu'elle met en orbite géostationnaire. Mais les succès ne sont jamais garantis dans l'espace. Le deuxième tiers d'Ariane se solde par un échec, problème d'instabilité du carburant. Deux autres vols, le 15e en septembre 1985 et le 18e en mai 1986, finissent eux aussi en fumée. Ariane 4 va inaugurer la série des lancements doubles grâce à une coiffe spéciale, SILDA, système de lancement double d'Ariane. Ariane 5, qui a été tiré pour la première fois le 4 juillet 1996, est capable de lancer près de 11 tonnes en orbite de transfert orbital ou 21 tonnes en orbite basse. Son moteur principal fournit 460 tonnes de poussée et les deux boosters de 540 tonnes brûlent pendant 21 minutes pour placer jusqu'à 21 tonnes en orbite basse. Le 25 septembre 2018, elle fêtait son 100e vol depuis 1996 et son 86e succès d'affilée. C'est élisant une masse record de près de 11 tonnes, ce qui porte son total de masse satellisée à 790 tonnes pour 207 satellites. Ariane 5 n'a connu que 4 échecs et ça en fait le lanceur le plus fiable du marché. La succession d'Ariane 5, ça sera Ariane 6, dont le premier vol est prévu en 2020. Elle est conçue avec une nouvelle organisation d'Ariane Espace qui s'est restructurée complètement pour faire face aux défis des Américains et en particulier SpaceX. Elle a pour objectif, cette nouvelle organisation, de réduire significativement le coût des lancements, qui tomberait à 65 millions d'euros par satellite. Mais cette fusée ne sera pas réutilisable, comme l'est en partie la Falcon X de SpaceX, qui affiche des tarifs allant de 25 à 35 millions d'euros. Le challenge de sa remplaçante, donc d'Ariane 6, ça sera de faire des prix compétitifs par rapport à ces prix qui sont aujourd'hui la moitié de ce qu'on prévoit. Et à plus long terme, Ariane Next, qui inaugurera pour l'Europe les lanceurs réutilisables, sera une fusée vraiment compétitive. Un démonstrateur de lanceurs réutilisables, Frog, a été testé le 4 octobre 1919. Autre fusée dans le catalogue d'Ariane Espace, Vega. C'est l'autre lanceur. Dans une gamme de puissance inférieure à Ariane, ce petit lanceur est capable de satelliser des charges jusqu'à 1,5 tonne en orbite basse. Entre 2012 et 2017, ce lanceur construit par l'italien Avio a mis à poste 25 satellites, civils ou militaires, pour 19 clients, avec une fiabilité de 100%. C'est une fusée Vega qui a lancé l'AS Pathfinder, le découvreur des ondes gravitationnelles. Mais après 14 succès consécutifs, Vega a connu son premier échec le 11 juillet 2019, alors qu'elle devait placer un satellite militaire des Émirats Arabes Unis. L'enquête a identifié la cause de l'échec, une rupture de la structure du deuxième étage.
Alors, autre question, nous venons de voir qu'il y avait des programmes spécifiquement européens, en tout cas, c'était la question qu'on se posait. Et du côté des autres nations, alors ?
Alors, du côté des autres nations, dans le monde entier, beaucoup de nations sont intéressées à l'espace. Voyons-les en détail. Le Japon. Dès 1954, le Japon développe des fusées-sondes, Kappa. Et puis en 1964, les lanceurs MS-4 et Lambda-4S qui plaça sur orbite le premier satellite japonais, Oshimi, un satellite de 24 kg, le 11 février 1970. Plusieurs satellites japonais seront lancés par la suite. L'agence japonaise fait développer par Mitsubishi le lanceur N1, basé sur la fusée américaine Delta, et la fit voler de 75 à 82, puis utilise la N2 entre 81 et 87. Ce sera le lanceur des premiers satellites de télécommunications japonais. Une autre série des fusées, les H1 et H2, fusées entièrement japonaises, est utilisée depuis 1988. Et le lanceur H2B est capable de placer 19 tonnes en orbite basse et 8 tonnes en GTO. Le GTO, c'est l'orbite de transfert géostationnaire. En 1990, la sonde ITEN va définir les technologies nécessaires à l'exploration de la Lune et des planètes. Lancée en 2005, la sonde Hayabusa, faucon pèlerin en japonais, est allée s'approcher du géocroiseur Itokawa qui naviguait à 300 millions de kilomètres de la Terre et a tenté d'y prélever avec un outil un peu de matière, mais sans succès. Mais le simple contact de la sonde avec le corps céleste a permis de récolter un échantillon, soit 1500 grains de taille microscopique. La sonde étant récupérée intacte dans le sud de l'Australie le 13 juin 2010. Leur analyse, publiée en septembre 2018, a montré que le géocroiseur provenait d'un autre astéroïde plus massif, créé il y a 4,6 milliards d'années, au moment de la création du Soleil, qui a été heurté par un autre corps et qui aurait expulsé de la matière qui, en s'agrégant, aurait créé ce nouvel astéroïde en forme de cacahuète. Et cet astéroïde pourrait entrer en collision avec la Terre dans à peu près 1 million d'années, à quelques jours près. Mais la découverte majeure de ces échantillons est que l'astéroïde contient plus d'eau qu'imaginé et avec une composition isotopique identique à l'eau terrestre, ce qui prouverait l'origine extraterrestre de cette eau. En mars 2019, Hayabusa a prélevé des grains de poussière sur un autre astéroïde, Ryugu, à 325 millions de kilomètres de la Terre. Ryugu est un astéroïde carboné, octaèdre, d'environ 900 mètres de côté, qui pèse 500 que multiplie 10 puissance 8 tonnes, ce qui fait énormément de poids. Une première photo de l'astéroïde a été publiée le 16 juin 2018, prise à moins de 40 km de l'astéroïde. Puis la sonde s'est mise en orbite autour de cet astéroïde le 27 juin pour effectuer des prélèvements de quelques milligrammes de poussière. Le premier récupérant l'éjecta de poussière provoquée par un tout petit impacteur le 21 février 2019. Puis, un deuxième prélèvement par un contact de sa surface, le 22 février 2019. Ensuite, un deuxième tir a été effectué le 5 avril, toujours en 2019, avec un projectile plus lourd, 2 kg, envoyé à 2 km par seconde, ce qui a provoqué un impact de 20 mètres de diamètre. Et la sonde est allée le 11 juillet au contact de l'astéroïde pour prélever quelques grammes de matière au fond de ce cratère nouvellement formé, dans une zone protégée jusqu'alors de l'environnement spatial. Ces échantillons seront de retour sur Terre en décembre 2020. Cette même sonde a largué deux petits astromobiles sur l'astéroïde, le 21 septembre, Minerva 1A et 1B, qui se déplacent en faisant de petits bonds, envoyant des photos de la surface. Et elle a déposé aussi un petit laboratoire franco-allemand de 10 kg, mascotte, qui s'est posé le 3 octobre 2018 et a fait pendant 17 heures des analyses du sol alimentées par ses seules batteries. Les premières photos prises par mascotte ont été reçues le 23 août 2019. Et l'on y a découvert que Ryugu n'avait aucune poussière, contrairement à ce qu'on avait pu observer sur les autres astéroïdes. Toujours au Japon, la société privée ISPAS a réservé deux fusées à SpaceX pour déposer en 2021 un atterrisseur et des astromobiles sur la Lune. Autre pays, bien plus proche de nous, l'Italie. À partir de 1959, l'Italie coopère avec la NASA et en 1964, elle lance le premier satellite développé par l'Italie, San Marco 1, depuis la base américaine de Wallops Island. Puis l'agence italienne lance des fusées depuis une ancienne plateforme pétrolière transformée en plateforme de tir ancrée au large du Kenya, soit au plus près de l'équateur. Une deuxième plateforme pétrolière sera convertie en pas de tir et utilisera des fusées américaines Scout pour lancer le 26 avril 67 le satellite italien San Marco B qui étudiera l'ionosphère. 27 lancements seront effectués entre mars 64 et mars 68, plaçant sur orbite 9 satellites, dont 4 américains et un britannique. À noter que ce concept de plateforme ancrée au large, servant de base de lancement, a été repris par la société américaine Sea Launch. Un navire assemblait plusieurs fusées de leurs satellites et on faisait une série de tirs très rapprochés. Mais des soucis de transfert de fusées entre le bateau et la plateforme et des incompatibilités de calendrier entre les différents satellites, qui ne sont pas toujours prêts à la même heure et à l'heure prévue, ont conduit à abandonner ce procédé. Vient ensuite le Canada, où un centre de recherche fut créé en 1959 pour construire les fusées-sondes Black Brand et les satellites scientifiques Alouette 1, lancés en septembre 62, et Alouette 2, en novembre 65. Puis Isis 1 et 2, en 69 et 71. Tous les satellites canadiens furent lancés par la NASA par des fusées américaines. Autre très gros concurrent américain et européen, l'Inde. L'Inde a désiré très tôt d'acquérir une indépendance dans le domaine spatial. Elle a créé un comité national de la recherche spatiale en 1960, établi des coopérations avec les États-Unis, la Russie, la France, et construit un lanceur national, SLV-3. Celui-ci, lancé depuis juin 1979, est capable de placer 150 kg en orbite basse. Il placera le premier satellite de télécommunication indien, INSAT, en 1982. Puis l'Inde développa deux lanceurs, Polar SLV et GLS-5, pour mettre sur orbite géostationnaire des satellites de 2,5 tonnes. En 1988, l'Inde a fait mettre sur orbite par une fusée russe Proton son premier satellite d'observation de la Terre, IRS-1A. Et 30 satellites indiens seront lancés cette année-là. L'Inde a envoyé des sondes. Tout d'abord, Chandrayaan 1, chariot lunaire, en Inde, autour de la Lune en 2008, puis Mangalayaan, autour de Mars, en 2014, et la sonde Chandrayaan 2, un vaisseau de 3,9 tonnes, équipé d'un orbiteur de 2,4 tonnes et d'un atterrisseur Vikram, qui déposera, lui, le rover Prayang, ce qui veut dire sagesse, sur le pôle sud de la Lune le 7 septembre 2019, et qui explorera pendant une journée lunaire, soit 14 jours terrestres, les cratères de glace détectés par la mission précédente, parcourant 500 mètres à la vitesse d'1 cm par seconde. Petite anecdote, le budget d'admission, 124 millions d'euros, est la moitié de celui du film Interstellar. Le 15 février 2017, l'Inde a battu un record. Elle a envoyé d'un seul coup 107 satellites dans l'espace avec son lanceur PSLV. Il y avait un satellite d'observation de la Terre de 714 kg et tout le reste était des nanosatellites. Deux autres lanceurs, PLSV XL et un lanceur lourd, GLSV, sont développés à partir de 2018. C'est une fusée GLSV Mark III qui devrait mettre un Gagagonaut en orbite. Gagagonaut, c'est l'astronaute indien, et en sanskrit, Gaga, ça veut dire ciel. Dans une capsule baptisée Gagayanan 2. Les deux vols d'essai de Gagayan 1, non invité, seront faits avec une fusée chinoise Longue Marche 5, en décembre 2020. Et en juillet 2021, le premier vol habité devrait avoir lieu en décembre 2021. L'Allemagne ne reste pas en reste. Elle a développé dès 2062, a travaillé avec l'Europe sur des programmes européens. Si le premier satellite allemand Azure fut lancé par une fusée Scout en novembre 69, le second Dial le sera par une fusée Diamant B en mars 70. Mais depuis, l'Allemagne s'est retirée du jeu. Alors, très 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 gros concurrent maintenant, la Chine. La fusée Chang'e 1, ou les fusées CZ-1, Longue Marche, est développée en 1965. Elle est basée elle aussi sur un missile stratégique, le DF-4. Ses premières missions sont essentiellement le lancement de satellites militaires. Mais en avril 70, elle met en place le premier satellite en orbite, Dongfang Hong 1, et en avril 90, le premier satellite météo, AsiaSat 1. Ces fusées sont tirées de la base de Yukian dans le désert de Gobi. Fort de sa nouvelle puissance économique, la Chine se lance dans un vaste programme spatial abordant tous les domaines et lance en 1995 le recrutement d'une promotion d'astronautes. Une capsule spatiale est développée, Shenzhou, vaisseau céleste, qui est une version chinoise du Soyouz russe. Quatre vols tests sont faits entre 1999 et 2002. Et le 15 octobre 2003, le taïkonaute, donc le cosmonaute chinois, le taïkonaute Yang Liwei, passe 21 heures dans l'espace, effectuant 14 révolutions autour de la Terre à bord du vaisseau Shenzhou 5. Devenu directeur adjoint des vols habités, ce premier taïkonaute a déclaré en mars 2018 avoir eu bien peur de mourir, son lanceur Longue Marche 2 ayant subi de violentes turbulences pendant 26 secondes lors du lancement. Le 27 octobre 2007, les Chinois mettent leur première sonde autour de la Lune, Chang'e 1. Cette sonde, c'est la première d'un vaste programme d'exploration de la Lune et elle est suivie en 2010 de Chang'e 2. Mais on reste autour de la Terre aussi avec les Chinois qui, le 27 septembre 2008, font leur première sortie extravéhiculaire sur Shenzhou 7 avec trois taïkonautes à bord du vaisseau. Et le 29 septembre 2011, les Chinois lancent leur première station orbitale, Tiangong 1. Tiangong, ça veut dire palais céleste. Une station d'une masse de 8,5 tonnes. Elle est habitée en juin 2012 et en juin 2013, à chaque fois par trois astronautes, dont une femme, pour des occupations de 12 et 13 jours. Mais cette station est devenue incontrôlable en mars 2016 et se rapprochait dangereusement des couches denses de l'atmosphère. Et jusqu'en mars 2018, donc pendant 2 ans, on n'a jamais été capable de définir le lieu précis de sa chute. Finalement, elle est tombée dans le Pacifique Sud, à une centaine de kilomètres de Tahiti, le 2 avril 2018. Vous voyez, fin mars, on ne savait pas où elle est tombée le 2 avril. Comme quoi, rien n'est vraiment très précis dans ces cas-là sur une station incontrôlable. Le 14 décembre 2013, les Chinois font poser un rover à 6 roues, U2, lapin de jade, sur la Lune. Il est emmené sur la Lune par la sonde Chang'e 3. Mais ce rover, prévu pour fonctionner 3 mois, ne durera qu'une journée lunaire, 14 jours. Le 19 octobre 2016, après l'amarrage du vaisseau Shenzhou 2 à la station orbitale Tiangong 2, les taïkonautes ont passé 33 jours dans ce premier poste de la station spatiale chinoise. Mais là encore, ce module spatial a été désorbité plus tôt que prévu, en juillet 2019. En novembre 2016, a lieu le premier vol du lanceur lourd Longue Marche 5, 879 tonnes à décollage, capable de mettre 24 tonnes en orbite basse ou 14 tonnes en orbite de transfert géostationnaire. Mais son second vol de cette fusée, en juillet 2017, a été un échec, et la fusée depuis n'a pas repris ses vols. Les Chinois en ont besoin pour les missions lunaires Chang'e 6 et 7, et qui sont prévues, elles, pour pouvoir effectuer des retours d'échantillons lunaires. En début janvier 2019, la Chine est la première nation à poser un engin sur la face cachée de la Lune. Jusqu'à présent, tous les alunissages sont faits sur la face visible, parce qu'il faut être en communication avec la Terre. La Lune, il n'y a aucune communication possible. C'est pour ça que les Chinois ont envoyé un satellite en orbite autour de la Lune pour assurer le transfert des informations entre la Terre et cet atterrisseur qui s'est posé sur la face cachée le 11 janvier 2019. Dans un autre domaine, le 22 avril 2019, une start-up chinoise, Space Transportation Technology, a mis en vol un lanceur ailé supersonique, Jianggang 1, planeur à usage civil, qui a atteint 4300 km/h en rentrant. Et pour la première fois, le 5 juin 2019, la Chine a lancé une fusée à partir d'une plateforme semi-submersible remorquée en mer de Chine, entre la Chine et la Corée, à 400 km de Shanghai. Et cette fusée a placé 7 petits satellites en orbite. Et il est possible que la Chine recommence à utiliser cette plateforme. Il y a encore une autre start-up chinoise, Link Space Aerospace Technology Group, qui a fait voler pour la troisième fois son micro-lanceur orbital RLV-T5, qui est de 1 tonne 5, qui est revenu se poser, comme fait SpaceX, à son point de départ, à 7 cm de son point de départ, après avoir atteint 300 mètres d'altitude. Donc les Chinois aussi se positionnent sur les lanceurs réutilisables, qui semble être la voie à suivre pour faire des économies dans les tirs. Autre lanceur, l'Australie. Les Anglais avaient construit à Woomera, dans le désert australien, l'Australie était à l'époque une colonie britannique, une base de tir. Et l'Australie avait alors adhéré à l'ELDO, l'organisme de lancement de fusées européen, grâce aux Anglais. Et l'Australie développera un satellite national, RISTAT, pas facile à dire, qui sera lancé en 67 par une fusée américaine Redstone. Le 25 septembre 2017, l'Australie a annoncé la création d'une agence spatiale nationale, soit 50 ans après l'envoi du premier satellite australien. L'industrie aérospatiale australienne, 11 500 personnes, entend se positionner sur le marché mondial de l'industrie spatiale, qu'elle estime, elle, à 400 milliards de dollars. Donc il y a un marché à prendre. Encore un concurrent, Israël. Le premier lancement réussi par les Israéliens a eu lieu le 19 septembre 1988. Le petit missile Jericho a été développé sur la base... C'est une fusée Shavit qui a été développée sur la base d'un missile Jericho qui a placé 160 kg sur l'orbite basse. Et plus proche de nous, Israël a tenté de poser un atterrisseur sur la Lune le 11 avril 2019, Bereshit. Mais il s'est écrasé à cause d'une panne du moteur de descente à 200 mètres d'altitude. Les Émirats Arabes Unis ont créé une agence nationale en 2014 et lancé le développement d'un satellite made in Dubai, Khalifasat. Et la première sonde martienne est en cours de développement, HOPE, avec un vol prévu en 2021. Et les Émirats Arabes Unis constituent un corps de 4 à 6 astronautes qui pourraient s'envoler en 2021 sur un vaisseau russe. la Corée du Sud, où il y a une agence spatiale coréenne, qui a annoncé son intention de réaliser un orbiteur lunaire en 2018, puis un rover. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça se concrétisera. Le Brésil a ouvert, dès 1965, un site de tir, Barreiro do Inferno. Mais trop proche d'habitations et de villes, il a été fermé pour des raisons de sécurité en 1979. Il a créé, la même année, au nord-est du Brésil, à la même latitude que Kourou, un autre site de tir, Alcantara, qui a été utilisé 40 fois depuis 1990 pour lancer des fusées-sondes. Mais les Brésiliens avaient développé un lanceur national, VLS-1, mais les trois tentatives ont été des échecs. L'Iran, enfin, dernier sur la liste, développe depuis 2016 un petit lanceur, Simog Saphir 2. Pour son troisième vol, le 15 janvier 2019, il n'a pas réussi à cet Élysée le mini-satellite OutSat à cause de la trop faible vitesse donnée par le lanceur.
Allez, on va faire une petite pause musicale. Gustav Holst, c'est ce que tu as choisi, Les planètes.
La première de la série.
Allez, après la pause, on se recompose. Gustav Holst, les planètes. Question, quelles sont les fusées qui permettent d'envoyer hommes ou satellites dans l'espace? Éclaire-nous.
Alors, il y avait d'abord, évidemment, des lanceurs américains. Mais en plus de Boeing, SpaceX et Blue Origin, dont nous reparlerons dans une prochaine émission, d'autres acteurs sont présents sur le marché des satellites. Orbital ATK. Cette société commercialise un lanceur lourd capable de placer 6 tonnes en orbite, Antares, précédemment utilisé sous l'appellation Taurus. Et prévoit aussi de lancer le cargo ravitailleur de l'ISS Cygnus. Cette fusée n'est en fait qu'une évolution du missile balistique Peacekeeper, le gardien de la paix, ou l'art d'utiliser là aussi les restes de la guerre froide. En juin 2018, cette société était rachetée par le géant Northrop Grumman, déjà fournisseur de la NASA. En avril 2019, cette nouvelle société a envoyé à l'ISS le 11e exemplaire de son cargo Cygnus, clôturant le contrat Commercial Resupply Services signé avec la NASA en 2009. Ce NG-11 était baptisé Robert Chaffee, du nom de l'un des trois astronautes décédés de lors d'incendie de la cabine Apollo. Elle fera voler en 2021 Omega et notre lanceur lourd, Diton, dans l'orbite de transfert géostationnaire, avec deux étages inférieurs et six accélérateurs à poudre. Autre voie explorée par Orbital ATK, l'utilisation d'un gros appareil commercial, le tri-réacteur Lockheed L-101, dont la carrière n'a pas été très fructueuse. Cet appareil emporte sous son fuselage une fusée, Pegasus, capable de placer 500 kg en orbite basse. Relative Space, autre société, prévoit dès 2021 d'imprimer une fusée en 3D, moteur compris, en 60 jours pour 10 millions de dollars, avec seulement 1000 pièces, soit 6 fois moins cher que SpaceX, dont le lanceur est composé de 100 000 éléments. L'objectif est de placer une tonne en orbite. Le réacteur EON, 100 composants seulement, avait subi en fin 2017 plusieurs séries de tests. Autre société, Sierra Nevada Corporation, qui développe un prototype d'avion spatial réutilisable sur le principe des navettes spatiales, le Edelweiss Chaser. Il sera capable d'emporter 7 astronautes ou d'effectuer des missions cargo. Il sera lancé soit par une Atlas V de Boeing, soit par une Ariane 5 de l'ESA. Il a fait un premier vol plané en pilotage automatique le 11 novembre 2017, largué à 3750 mètres d'altitude par un hélicoptère gros porteur et s'est posé ensuite une minute plus tard. Pour la mission, seuls des moments cargo sont programmés par la NASA. Autre acteur, Vector Aerospace Systems, qui devrait envoyer en orbite basse des charges de 60 kg pour le prix dérisoire pour l'espace des 1,3 millions en dollars. Dernière société américaine, Astral Space. Cette petite société californienne a été surprise sur une base de l'aéronavale US en train de débarquer une toute petite fusée non répertoriée, probablement un nouveau lanceur de satellite militaire qui a fait un premier tir en juillet 2018. Voyons un peu maintenant les lanceurs russes. De nombreuses fusées existent pour couvrir les diverses missions spatiales russes. Toutes n'auront pas connu de carrière opérationnelle. SL-8 a été utilisé pour la série des militaires des Cosmos, plusieurs milliers d'exemplaires lancés. Puis les fusées F, F1, B. Le fusée N1, le lanceur lourd prévu pour emmener un équipage sur la Lune, mais qui fut abandonné après 7 échecs lors de ses lancements. La fusée Energia, autre lanceur lourd prévu pour emporter la navette Buran, capable de placer 100 tonnes en orbite basse. Mais là aussi, la navette Buran, elle ne fera qu'un vol non orbital et ça s'arrêtera. Les fusées Proton, ayant servi servi initialement pour la sonde lunaire, Zonde, est utilisée en parallèle à Ariane sur la base de Kourou. Elle peut satelliser 22 tonnes en orbite basse et 6 tonnes en orbite de transit orbital. Les fusées Zénith, qui est un lanceur moyen de 5 tonnes en orbite basse. Et la Russie veut développer un lanceur super lourd, baptisé STK, qui pourrait placer 88 tonnes en orbite basse. Cette fusée de 3 étages aura pour ambition de déposer un équipage sur la Lune. Premier vol prévu en 2028. Enfin, pour la Russie, une grosse coopération entre l'Europe et la Russie. La Russie utilise la base spatiale européenne de Kourou pour le lancement de satellites grâce au lanceur Soyuz qui a placé, par exemple, en octobre 2011, pour la première fois, deux satellites du système européen Galileo. Pour finir sur les lanceurs, hors Europe, il faut parler des lanceurs chinois. On a évoqué tout à l'heure les longues marches. Il y a la 2B, la 2D, la 3B, la 4B, la 5 et la 11 qui ont des capacités et donc des possibilités différentes. Et une fusée en développement, la longue marche 9, qui est prévue pour le programme lunaire qui, lui, devrait être opérationnel en 2030. Nous verrons les autres fusées dans une prochaine émission, mais maintenant, je voudrais vous diffuser l'interview d'une jeune personne qui a eu une chance extraordinaire, c'est de vivre de près l'aventure d'Ariane Espace. Donc, je passe la parole à Charlotte Théris. Charlotte Théris, vous avez eu l'occasion de visiter la base de Kourou pour une opportunité dont tout le monde rêve, c'est d'aller assister à un tir d'Ariane. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé à cette chose extraordinaire d'être invité, alors que vous ne travaillez pas à l'ESA, ni à Airbus, ni nulle part dans l'aéronautique, de pouvoir aller assister à ce dont toute personne qui s'intéresse à l'espace rêve?
C'est vrai, effectivement, quand j'y suis allée, j'étais passionnée d'aéronautique et je ne risquais pas de travailler dans l'ESA, vu que j'avais 13 ans quand j'y suis allée. Et donc, effectivement, la mairie de ma ville, Rodez, en Aveyron, avait organisé un concours pour le passage de l'an 2000 qui consistait à gagner un voyage en Guyane dont le but principal était d'assister au décollage de la fusée et visiter le centre spatial. Et en bonne passionnée d'espace que j'étais à l'époque, j'ai tout de suite été intéressée. Je me souviens même d'ailleurs que donc, quand ça avait été lancé, c'était en 99 et il y avait eu l'éclipse totale de soleil le 13 août 1999 où j'avais exprès fait en sorte de pouvoir la regarder. J'étais abonnée à Science et Vie Junior, je lisais tout ce que je pouvais dans le domaine spatial. Et donc, après avoir écrit une histoire qui mêlait espace et ville de Rodez et projection futuriste, on a été quatre à avoir été sélectionnés pour pouvoir faire le voyage en Guyane, qui était donc en juillet 2000, pour assister au décollage de la fusée qui avait lieu à ce moment-là.
Donc, vous étiez plus combien de candidats au départ sur Rodez?
Il y a eu 2000 candidats entre 14 et 18 ans qui ont postulé.
Donc, sur les 2000 candidats, vous avez été 4 retenus, des garçons, des filles, un petit peu les deux?
Alors, on a été 4 filles.
4 filles, ah ben, merci, bravo les garçons. Donc, pour trouver quelque chose. Et donc, la mairie de Rodez vous a payé un voyage jusqu'à Kourou. Ça a duré combien de temps, ça?
Alors,
ce voyage, cette aventure?
C'était sur 10 jours et comme on partait de Rodez, en fait, c'était tout un périple parce qu'il fallait aller jusqu'à Paris. Moi, je sais que c'est la première fois que je prenais un vol pour aller aussi loin. Il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, on ne prenait pas autant l'avion que maintenant. Et donc, je le voyais un petit peu comme un vrai voyage d'aventure pour aller sur place. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup le dépaysement, même si c'est quand même... ça fait partie de la France, la Guyane, ça n'a absolument rien à voir. Et donc, l'exotisme vous frappe tout de suite quand vous arrivez là-bas.
La chaleur et l'humidité.
C'était exactement ça. Voilà. Dès qu'on est arrivé sur place, on s'y attend pas du tout. Et quand on sort de l'aéroport, on a cette espèce de truc qui nous tombe dessus, mais qui est aussi propre à la région là-bas. Et c'était une belle découverte, et pas que au niveau du centre spatial d'ailleurs.
Mais il n'y avait que 4 personnes de Rodez. Vous êtes retrouvés dans un groupe avec d'autres participants qui venaient d'autres régions avec des accompagnateurs qui amenaient tout un groupe plus nombreux sur le site de Kourou.
Non, on a eu l'exclusivité. Donc il y a une personne de la mairie qui nous a accompagnés et ensuite un guide local qui nous a accueillis sur place. Donc en total, on était 6. Avec un programme fait sur mesure, on a même eu la chance d'être accueillis à l'époque par le président guyanais avec qui on a pris un petit déjeuner.
Waouh, ça c'est super. Donc là, vous avez visité un bout de Guyane. Et après, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la base de Kourou avec cet espoir d'avoir partir une fusée.
Oui, on a eu un programme assez complet. Donc on a même pu faire une petite escale dans la forêt amazonienne où on s'est retrouvés au milieu des bébêtes, etc. Et on a traversé le fleuve, donc
le Maroni,
pour aller même faire une journée avec une tribu au Suriname. Donc ça, je pense que c'est une expérience qui m'a autant marquée que celle du centre spatial. Et même pu voir les tortues luttes pondre sur la plage, c'était encore autorisé à ce moment-là. Et donc, en tout respect des animaux, on est resté assez éloigné, mais on a pu voir, c'était à la bonne période, les tortues pondre. Donc c'est vrai que tout était rempli d'émotions. Et effectivement, après, on a fait 2 jours sur place au centre spatial. Comme vous le savez, il y a des aléas climatiques pour les décollages des fusées.
Exactement, oui, ça peut arriver, oui.
Donc malheureusement pour nous, on n'a pas pu voir le décollage au moment où nous y étions, qui a été décalé d'une semaine. Donc on ne nous a pas laissé rester une semaine de plus. Mais on a quand même eu toutes les explications. On a pu voir vraiment la base de lancement, enfin du plus près qu'on pouvait, bien évidemment.
Vous avez visité la base et les installations, le montage.
Et en plus, comme la fusée était pratiquement prête à décoller, oui. Du coup, on l'a vu de près, même si...
sur le pas de tir.
Voilà, exactement.
On avait quelqu'un qui était prêt à appuyer sur le bouton, mais on n'a pas appuyé sur le bouton.
C'est
oui,
ça.
Oui, les conditions météo en Guyane sont quand même particulières.
Ça,
c'est
on
très déplacé sur l'équateur, mais par contre, c'est quand même des tropiques et la jungle n'est pas loin et c'est pas terrible. Bon, donc... Vous avez été un peu frustré quand même de ne pas voir ce magnifique engin s'élever dans les airs, je suppose.
Alors je veux dire qu'il y avait tellement de choses super qui ont été faites à côté que pour le coup ça a beaucoup rattrapé et rien que le fait d'y être, même sans voir le décollage, ça reste quand même une expérience magnifique et cette frustration je l'ai bien oubliée.
Ah oui, je m'en doute. Mais donc les gens qui étaient sur la base, il y avait des techniciens qui vous ont fait visiter le centre de contrôle et. Le montage, comment vous ont expliqué comment la fusée arrivait là et compagnie.
Oui, alors on a eu droit à toutes les explications. C'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit grand, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. C'est la première fois que je voyais vraiment une base de décollage et enfin on a l'impression que c'est à perte de vue. On voit même pas où ça s'arrête, on voit même pas où ça commence. La chose qui frappe le plus, c'est vraiment à quel point c'est désert à côté, mais c'est vraiment pour des raisons de sécurité, je sais très bien. Puis les rails qui sont très impressionnants pour amener la fusée, on se demande même comment en fait ça arrive à tenir sur ça, tellement c'est lourd. Alors les souvenirs qui me restent, on m'avait expliqué les différentes parties de la fusée, justement ce qui marchait au niveau du lancement, du propulseur, comment il fallait l'orienter au moment de là où c'était assemblé, etc. Tous les techniciens qui nous ont expliqué effectivement. Et puis il y a toute la partie aussi intérêt au niveau de la recherche spatiale. Pourquoi on envoie cette fusée ? À l'époque, je crois que c'était pour mettre un nouveau satellite dans l'espace. On le fait pas, je crois, que pour ça. Et donc moi aussi, c'est ça qui m'intéressait derrière. C'est vraiment à quel point justement on peut découvrir d'autres choses dans l'espace grâce à ce qu'on fait là sur cette base. Et on avait eu toutes les explications aussi par rapport à ça.
Oui, parce que là, il faut bien se rappeler que dans une mission spatiale, la fusée, c'est un quart d'heure, une demi-heure suivant où on va, et après la fusée, ben, elle a brûlé, et la seule chose qui reste dans l'air, c'est le satellite. Mmh. Et les gens payent pour qu'on mette un satellite sur une orbite très particulière, qui va remplir une mission très particulière. Mmh. Voilà. Et donc, cette expérience quand même qui était passionnante, je pense que les trois autres personnes, ils ont trois autres filles, donc qui étaient avec vous, elles ont dû, pareil, le vivre d'une façon très intense. Vous, je sais que vous n'avez pas poursuivi votre carrière, le cursus universitaire, quand vous aviez 13 ans.
Oui.
Donc vous aviez déjà l'idée de ce que vous alliez faire après, ou non ?
Alors j'avais une vague idée, je sais que j'aimais beaucoup écrire, et c'est d'ailleurs ça qui m'a amené à Guyane, puisque j'avais gagné le premier prix du concours d'écriture. Et donc j'avais un petit peu en tête de faire dans le journalisme, on va dire. Mais j'ai toujours encore gardé la tête dans les étoiles, si je puis dire. Je m'intéresse toujours de près. Je sais que, par exemple, l'année dernière, on pouvait voir Mars à l'œil nu, qui était plus très proche de la Terre, par exemple. Donc, voilà.
Il n'était pas si proche que ça, mais il était un petit peu plus proche de la Terre.
Oui.
Mais Mars, on peut toujours le voir à l'œil nu. Mais le point rouge, on le voit.
On voyait bien le point rouge. Ouais.
Mais il y a des observatoires. Alors, nous, on a la chance, ici, à Manosque, d'être à côté de la montagne de Lure. Oui, il y a un superbe observatoire et deux Saint-Michel observatoires où il y a l'observatoire de Haute-Provence et puis un centre d'astronomie où on peut faire des choses extraordinaires. À Rodez, je ne sais pas, et en plus les conditions climatiques de Rodez ne sont peut-être pas les plus favorables. Donc vous n'avez pas continué dans ce métier vers l'aéronautique.
Mais quelque part, peut-être que mon destin est tracé, puisque la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé était Airbus, EADS.
Quand même, oui, voilà. Et après, vous êtes restée chez EADS ?
Après, je suis restée dans le domaine de l'énergie, mais pas chez EADS.
Non. Ah, d'accord. On a trahi l'espace. Et vos camarades que vous avez peut-être revus depuis, vous ne savez pas si par hasard, il y en a une qui aurait été piquée par le virus, non pas par des moustiques en Guyane, mais par un virus aéronautique et qui serait resté dans la profession ?
Non, je n'ai pas cette information-là. Je ne le sais pas.
Ben, ça sera à chercher pour voir
si
vous arrivez à les retrouver.
C'est une bonne question.
Parce que le but un petit peu de nos émissions, c'est d'expliquer aux jeunes qui ont une passion qu'on arrive toujours à concrétiser.
C'est vrai.
Il faut s'accrocher, c'est parfois difficile, Mais quand on a un rêve de gosse, il y a 13 ans, c'est encore un rêve de gosse, hein, de pouvoir aller jusqu'au bout de ses rêves, c'est très bien. Voilà. Donc, et ça, je pense que moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais ça m'aurait bien plu.
Et par rapport à ce que vous dites, j'aimerais rebondir justement parce que moi, c'était une passion. Donc, du coup, j'ai passé beaucoup de temps à écrire ce récit pour participer au concours. Et je me souviens que je l'ai écrit à la période des fêtes de Noël et qu'il y avait pas mal de personnes de ma famille, mon oncle et ma tante, qui se moquaient de moi parce que j'écrivais cette chose et qu'à la place de jouer sous le sapin de Noël, je me levais à 8h du matin pendant mes vacances alors que j'étais au collège pour le faire. Et j'ai dû passer 10 heures par jour pendant 7 ou 8 jours d'affilée pendant les périodes de Noël à le faire. Et je pense que, bon, mis à part mes parents, pas grand monde pensait que j'allais décrocher ça. Mais moi, je savais que cette histoire, elle m'inspirait. Je savais que justement, l'espace m'inspirait. Et donc, j'ai continué quoi qu'on m'ait dit. Et finalement, ben, j'ai bien fait parce que je pense que ça reste encore aujourd'hui, même avec tous les voyages que j'ai pu faire, une des plus belles expériences que j'ai pu vivre.
Et aujourd'hui, on prend l'avion, on peut aller n'importe où, on peut aller en Guyane. Mais de la rentrée sur le centre spatial guyanais, c'est quand même pas à la portée de n'importe qui. C'est pas Disneyland.
Et même, je me demande encore comment ils ont réussi à le faire à la mairie de Rodez, qui est une petite ville. Je me demande comment ils ont eu les connexions pour faire ça.
Parce que la relation entre Rodez, l'Aveyron, la Guyane et l'espace...
Alors là, non, je vois pas.
Ça veut dire que dans la vie, il y a une opportunité, on la prend, on la saisit, on lâche pas. On passe 70 heures pour écrire un papier. Et après, on a 10 jours de récompenses extraordinaires.
Complètement inattendu.
Voilà, c'est sûr. Et donc aujourd'hui, vous faites plus du tout dans l'espace. Vous faites quoi alors ?
Moi aujourd'hui, je suis consultante dans le domaine stratégie et marketing.
Oui, ben, la stratégie, on peut aussi trouver des voies qui orientent vers l'espace, non, pour la stratégie.
Ah ben, j'ai frappé de temps en temps à la porte d'NVDA, mais s'ils nous entendent, qui me contacte aujourd'hui ?
Il y a une candidature spontanée qui est manifestée, donc monsieur le président de NVDA, vous pourrez prendre vos oreilles, Charlotte Péris est à votre disposition, ce sera un plaisir. Et quel conseil vous donneriez-vous ? Vous avez quel âge aujourd'hui ?
33 ans.
Voilà. Donc, nos auditeurs sont... Nous avons des auditeurs qui sont au lycée, au collège, qui sont en train de préparer la carrière. Quel conseil vous donneriez-vous, du haut de vos 33 ans, là, sur des jeunes qui vont se lancer dans la vie ou qui vont choisir une voie ?
Moi, je dirais que, quoi qu'on choisisse, forcément, on se dit que ça va être difficile. Même des chemins qui ont l'air tout tracés où on se dit que finalement ça va être une vie beaucoup plus facile, c'est pas forcément le cas. Et donc juste si vous avez la chance d'avoir une passion, parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde aujourd'hui, de bien la garder et d'essayer de la creuser. Et finalement au bout d'un moment, je pense qu'il y a toujours des choses qui arrivent sur votre chemin qui font en sorte de vous aider, à condition de pas vous laisser influencer. C'est ça le plus difficile finalement, parce qu'il y aura toujours des gens pour vous dire que ce n'est pas possible. Et donc, la seule personne à laquelle vous pouvez vraiment faire confiance, c'est vous et votre intuition.
Oui, exactement. Il ne faut pas toujours écouter ce que dit la gamine et les voisines.
Oui.
Elles ne sont pas toujours de bons conseils. Et il y a même... Alors, quelqu'un, je ne me rappelle plus, qui disait « Nous l'avons réussi parce qu'on nous avait dit que c'était impossible. »
Oui, j'aime beaucoup cette phrase.
Oui, cette phrase, elle est très, très bien. Tout le monde avait dit que c'était impossible, donc on l'a fait et on l'a réussi. Ne jamais lâcher. Ça c'est sûr.
Moi je dis que dans la vie je prends toujours un malin plaisir à prouver aux autres qu'ils ont tort en fait.
Oui, oui, oui. Et là on est très très content quand on a dit
c'est
oui
ça.
Quand on vous dit ça tu arriveras jamais et que finalement on le fait, qu'est-ce qu'on est content d'aller leur montrer en disant regarde ce que je n'étais soi-disant pas capable de faire. Voilà, donc c'est le conseil d'une jeune qui démarre dans la vie.
Hein, merci de dire que je suis encore jeune.
Mais oui, 33 ans, ça en est encore jeune. On a une grande partie de l'éducation comme la retraite aujourd'hui, ça sera, il n'y en aura pas.
Non.
Donc vous avez 40 ans à bosser devant.
Merci.
Merci de m'encourager. Il faut faire quelque chose qui plaise. Hein. C'est ce que tout le monde m'a dit. Faites quelque chose qui vous plaît. Allez-y et surtout n'écoutez pas les autres, foncez.
Et dans tous les cas, même si vous vous retrouvez à faire quelque chose qui ne vous plaît pas, ça finira par vous rattraper à un moment ou à un autre où vous aurez envie de tout plaquer et de faire autre chose. Donc autant commencer dès le départ.
Voilà, c'est ça. Ne vous laissez pas bouffer par le quotidien qui vous prend la tête. Voilà.
C'est ça.
Si vous aviez l'occasion de retourner à Kourou, vous y retourneriez ?
J'aimerais beaucoup. D'ailleurs, j'ai une amie là qui a commencé des études en Guyane. J'arrête pas de lui dire qu'il faut qu'elle m'invite pour que j'y retourne. C'est juste que comme c'était il y a pratiquement 20 ans maintenant, j'ai gardé une tellement belle image que j'ai peur que quelque part les touristes aient un peu plus envahi la Guyane, que c'est un petit peu moins de charme, un petit peu moins d'authenticité.
Oui, je ne parlais pas de la Guyane, je parlais de Kourou.
Ah oui, alors
voilà. Kourou, le centre spatial.
Je lance aussi un appel au centre spatial. Moi qui n'ai pas pu voir le décollage, j'aimerais bien pouvoir revenir pour concrétiser.
Voilà. Ça, je suis sûr que si le centre spatial organisait des voyages touristiques pour aller voir tirer des fusées, ils auraient du monde. Mais vous le disiez tout à l'heure, c'est au milieu de nulle part. C'est quand même relativement dangereux, un tir de fusée. Il faut que ça se passe bien, tout va bien. Mais bon, on est...
C'est encore assez imprévisible.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc évidemment, vous ne les avez pas vus, mais vous avez eu des photos. Quand Apollo décollait, les gens, il y avait des milliers de personnes. Mais ils étaient très loin.
Oui, ça, je me doute.
À 10, 20 km de là. Parce que une fusée qui explose, malheureusement, c'est très dangereux.
La seule chose que j'avais en tête, mais peut-être que c'est faux, c'est qu'au moment du décollage, quelle que soit la distance à laquelle on est, si on arrive à le voir, on sent le sol trembler, mais c'est peut-être pas le cas.
Ah si, si, si. Si, voilà. Si, si. Et puis il y a le bruit, il y a le bruit, le son, le déplacement d'air, tout ça qui fait que tout tremble, même si on est très très loin.
Et j'aurais voulu pouvoir assister au premier pas sur la Lune, malheureusement je n'étais pas née, j'espère que...
Mais oui, il y a 50 ans, c'est sûr que vous étiez pas née, il y avait encore du chemin avant de faire une petite Charlotte, et bon, vous n'étiez pas là. Comme on dit dans l'aéronautique, vous n'étiez même pas sur le planning de jonctionnement.
D'accord.
Voilà, mais il y a d'autres choses. Peut-être vous verrez le premier homme sur Mars.
Oui, peut-être, j'aimerais bien.
Le retour sur la Lune s'est programmé, on pense, aux alentours 2024, donc c'est demain. Le premier homme sur Mars, peut-être 2050. Mais bon, moi je pense que je ne le verrai pas. Mais ça va être aussi une expérience extraordinaire. Ça, il y a plein de choses qui vont se passer. Il y a des tas de sociétés privées qui font des choses extraordinaires. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont des idéaux, ces gens-là, des gens de SpaceX, de Blue Origin. Ils ont gagné beaucoup d'argent, ils le mettent dans quelque chose qui est passionné. Donc, on n'est pas milliardaire, on n'a pas les moyens. Tout le monde rêverait de construire sa fusée et de voir partir sa fusée. Mais bon, on n'a pas les moyens. Mais on a l'envie et on peut suivre ça. Et donc, aux jeunes qui nous écoutent, là, si vous avez l'opportunité de trouver un créneau qui vous plaise, alors là, on parle d'aéronautique, mais quel que ce soit, ça peut être pour un chimiste, un architecte, un chirurgien. Un médecin, foncez et n'écoutez pas tout le monde, allez-y. Et surtout si on vous dit, de toute façon, on ne fait pas, tu n'y arriveras jamais. On y arrive toujours. Pas vrai, Charlotte?
Il faut y croire, le vouloir et surtout travailler pour, parce que forcément, ça ne tombe pas dans les mains.
Oui, ça, c'est sûr que rien n'arrive en claquant dans les doigts. Ça, c'est un rêve de politique ou de fou, de croire qu'il suffit d'ouvrir la bouche pour que ça tombe dedans. Non, c'est beaucoup de travail. Mais aussi de superbes récompenses avec eux.
Et il n'y a pas d'âge pour y croire, qu'on ait 10 ans ou qu'on ait 70 ans, de toute façon.
Oui.
Il ne faut pas se dire que c'est trop tôt ou que c'est trop tard.
Jamais. Non, non. Il faut vivre ses rêves en permanence, tout le temps. Bien. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Vous auriez, dans votre carrière ou dans vos études, est-ce qu'il y a quelque chose à un moment que vous auriez envie de faire et que vous n'avez pas pu faire? Est-ce que vous auriez un regret dans votre... petite courte vie jusqu'à présent, à 33 ans, c'était Jésus-Christ, quand il est mort. Qu'est-ce que vous auriez comme regret en disant si j'avais pu, je changerais ça?
Disons que c'est encore quelque chose que je peux faire et j'essaie de faire de plus en plus. C'est que la Guyane m'a donné beaucoup le goût au voyage et aux rencontres avec les cultures étrangères. Et j'essaie au maximum justement de pouvoir voyager et vivre à l'étranger parce que j'estime que ça apprend beaucoup de choses justement et que ça aussi suscite la créativité. Et donc, je ne l'ai pas encore assez fait, et donc je souhaite continuer à le faire de plus en plus.
Mais vous l'avez fait parce qu'au cours de vos études, vous êtes allé vivre en Allemagne?
Alors, j'ai fait Allemagne, Angleterre et Vietnam, mais pour moi, c'est toujours pas suffisant. Et j'aime justement aller dans ces contrées un peu reculées qui ont beaucoup de choses à nous apprendre, et où peut-être qu'on peut faire encore d'autres découvertes sur notre Terre avant d'aller dans l'espace aussi.
oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure sur la Guyane, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont polluées par le tourisme de masse, pas un tourisme intelligent, des gens qui vont pour apprendre, des gens qui vont simplement pour faire la photo parce qu'on leur a dit que, et ça c'est un peu triste. Mais il y a plein de choses à voir dans le monde, et il y a plein de civilisations très intéressantes.
Ouais.
Et on voit que bon, notre modèle français qui est très bien, Il n'est peut-être pas parfait et il y a des choses aussi intéressantes à voir partout et à apprendre de partout.
C'est ça.
Bien. Merci.
Merci de m'avoir reçu.
C'est avec plaisir qu'on vous reçoit et que nos auditeurs vont pouvoir écouter et réécouter vos paroles et votre parcours. Merci Charlotte.
Merci Jean-Jacques.
Lors de la prochaine émission, nous verrons les autres fusées en service actuellement, qu'elles soient européennes ou autres. Puis nous évoquerons les stations spatiales, les navettes spatiales américaines et russes, ainsi que le problème très présent et de plus en plus crucial des débris dans l'espace. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un mois, le jeudi 12 décembre 2019 à la même heure. D'ici là, si vous avez des questions relatives au contenu de cette émission, vous pouvez les envoyer à Espace Horizon Inaccessible sur le compte Facebook de Fréquence Mistral. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et vous y trouverez aussi toutes les références des ouvrages qui m'ont permis de préparer cette émission et les précédentes. Cette émission sera disponible sur le site de la radio fréquencemistral.com et sera diffusée ou rediffusé le mercredi 27 novembre à 15h. Merci à James pour la technique, à François et son équipe pour leur accueil. Je vous souhaite une très belle fin de journée.